D'abord, donc, merci aux organisateurs du congrès qui ont pensé que je pourrais faire œuvre utile en prononçant une conférence d'ouverture sur la question récurrente, il faut l'avouer, de la nature de la sociologie, mais aussi que ce soit fait par non pas ce qu'on appelle parfois un sociologue général, mais au fond par quelqu'un qui n'est que spécialiste de la sociologie et de l'histoire des sciences. J'ai donc hésité en me disant, pas encore un discours d'épistémologie. Finalement, je me suis dit, pourquoi ne pas accepter et tenter d'aborder la question de manière différente, en essayant de ne pas ressasser les thèmes habituels de cumulativité, d'objectivité, d'incommensurabilité, de relativisme ou encore de critique, comme si toute science n'était pas critique. Et d'autres questions du genre, bien faites pour les conférences d'ouverture et les savants en fin de carrière qui, blasés d'études de terrain, se mettent à réfléchir sur leur discipline en se basant le plus souvent implicitement sur Thomas Kuhn, comme si la philosophie des sciences n'avait depuis affiné ses analyses. Ce faisant, j'ai bien peur cependant de ne peut-être pas aborder les questions épistémologiques que le texte de présentation du programme appelle de ses voeux. Lorsqu'il ne relève pas strictement de la réflexion philosophique sérieuse sur les sciences sociales, les discours épistémologiques servent de justification à un domaine qui se conçoit comme différent des autres. Ainsi, un livre récent est intitulé L'épistémologie des études touristiques. Comme si ce domaine ne relevait pas de plein droit des sciences sociales et qu'il avait donc une épistémologie propre. Or, en l'ouvrant, on constate assez vite qu'il parle plutôt de méthodologie. Mais épistémo est toujours plus chic que métho, tout comme théorie est mieux qu'empirie. Le discours de second degré qui porte sur la discipline peut aussi servir de prétexte à ceux qui, confondant leur retraite avec la fin du monde, annoncent la fin de leur discipline quand ce n'est pas celle de leur objet. On a vu cela en physique, par exemple, lorsque Stephen Hawking, immobilisé dans son fauteuil roulant, se demanda en 1980 si la fin de la physique théorique était proche. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer. Il faut plutôt respecter les travaux accumulés par ceux qui se consacrent sérieusement à l'épistémologie, en évitant autant que possible les philosophies spontanées de savants et de projeter des pratiques académiques, des pratiques adéquates à un type de questionnement précis et adapté à un terrain donné sur la discipline considérée dans sa généralité, prenant ainsi son petit monde pour l'ensemble du réel. Pour ce faire, il faut, il me semble, s'en tenir à des définitions minimales des catégories fondamentales, définitions qui permettent, du moins je l'espère, d'éviter les faux débats qui encombrent les sciences sociales et leur histoire. Comme le notait avec raison Gabriel Abend dans son étude sur les nombreuses significations du mot théorie en sociologie, il y a encore place à améliorer la clarté sémantique de bien des concepts pour éviter les faux débats et se concentrer plutôt sur les véritables désaccords. Ainsi en est-il de la notion de science. Terme toujours utilisé, mais rarement défini, flou sémantique qui rend possible les faux débats fondés sur des quiproquos, chacun parlant de sa propre intuition de ce qu'est une science, reprenant les idées conçues classiques d'expérimentation, de mathématisation, de quantification ou de réfutabilité. Pour ma part, je demeure convaincu que la définition courante du 17e siècle suffit encore amplement pour caractériser le noyau dur de toute science. La science vise à rendre raison des phénomènes en invoquant des causes naturelles, au sens large. Il va de soi que la façon de rendre raison varie selon les phénomènes étudiés. La physique n'est pas la psychologie, qui n'est pas la biologie, qui n'est pas la sociologie. Si l'équation de Schrödinger rend compte du comportement des atomes placés dans des différents dispositifs, elle ne peut servir à justifier et encore moins expliquer la liberté des humains. Or, il y a des travaux qui veulent nous montrer que les gens sont libres parce que la mécanique quantique est non causale. C'est un tissu d'absurdité. Il y a donc des échelles à tous les phénomènes et un ensemble de faux débats est fondé sur cette confusion des échelles d'observation. Il est frappant de voir qu'il ne viendrait jamais à l'esprit d'aucun physicien des particules de reprocher à un spécialiste de l'état solide de ne pas tenir compte de l'existence des quarks dans son modèle de résistance des matériaux. Accepter l'existence d'échelles de phénomènes relativement découplées, même si on peut aussi tenter de les relier, permet d'éviter les faux problèmes. Par exemple, Les sociologues qui insistent pour dire que tout change, tout est contingent, tout émerge constamment de l'hic et nunc, des interactions toujours imprévisibles, me font penser à un physicien qui observerait une seule molécule d'un gaz et qui, sous prétexte qu'elle se comporte effectivement de façon aléatoire, c'est le mouvement brownien, en conclut que la loi de Boyle et de Mariotte ne peut être valide, alors qu'elle est parfaitement, au contraire, une très bonne loi à l'échelle macroscopique. Une fois l'échelle fixée, on choisit la méthode appropriée à l'objet et aux questions qu'on lui pose. Tout cela est évident, mais n'empêche pas une autre classe de faux débats sur le qualitatif contre le quantitatif et l'annonce de pseudo-innovations comme les méthodes mixtes, nouvelles mantras ou buzzwords, les demandes de subventions du Conseil européen de la recherche, ou plutôt, comme on dit en France, l'European Research Council. Les méthodes mixtes, tout comme l'interdisciplinarité, servent au fond de, qui sont pourtant à la mode à l'European Research Council, ne sont que des moyens et non pas des fins, alors qu'on a tendance à transformer en fin l'interdisciplinarité et en fin les méthodes, qui ne sont que des moyens. Tout ça est des choses élémentaires qui vont de soi et que paradoxalement, on oublie. Une question bien posée, à la bonne échelle, ne nie donc pas l'existence d'une dynamique à une autre échelle, mais admet son indépendance relative, son découplage. Personne de sérieux ne peut croire que la neurobiologie remplace la psychologie et encore moins la sociologie. Les médias, dont la logique est celle du buzz et des réponses simples et tranchées, veulent nous le faire croire, mais il est inutile de les alimenter en acceptant de débattre des fausses questions. Il faut savoir résister à l'effet d'imposition de problématiques qui nous enjoignent de répondre à de fausses questions au lieu de les reformuler. Combien d'experts se sont prononcés sur la crise des sciences sociales sans avoir jamais pris le temps d'en établir d'abord l'existence ou commenter le silence des intellectuels alors même qu'ils occupaient toujours l'espace public. En pratique, donc, il existe bien un consensus, le plus souvent implicite, sur les fondements de la discipline, à condition de savoir reconnaître les faux débats pour ce qu'ils sont, une façon pour certains de sortir de la foule anonyme des chercheurs en annonçant une autre révolution scientifique ou méthodologique. Si tout le monde est réaliste, on annoncera le relativisme. Quand tous seront devenus relativistes, on annoncera un nouveau réalisme, comme d'autres ont annoncé une nouvelle histoire des idées et une nouvelle sociologie des intellectuels. À mon avis, les problèmes de la sociologie ne sont pas d'abord ni surtout épistémologiques, discussion d'ailleurs confondue très souvent avec la méthodologie, mais, curieusement, sociologiques. Ils relèvent en effet des modes de recrutement et de formation lesquels influent sur la cohésion sociale de la discipline, cohésion qui, justement, peut être accentuée par une organisation comme l'Association française de sociologie dans son rôle de promotion de l'unité dans la diversité. Je crois en effet que l'on n'a pas suffisamment souligné l'importance sociale que constitue en France la relance en 2002 de l'Association française de sociologie. Car plus important que les discours épistémologiques les plus rigoureux est la pratique même de l'enquête sociologique. L'existence de la sociologie se manifeste ainsi publiquement, chaque 2 ans, dans des villes différentes et rend visible le travail collectif des sociologues qui scrutent les multiples facettes de la vie sociale. En témoignent ici les 50 réseaux thématiques dont les membres confronteront dans les jours qui viennent les résultats de leurs recherches. C'est bien là la meilleure façon de promouvoir la sociologie en faisant état de ses résultats d'enquête et en s'assurant que les médias puissent en donner des résultats dans les médias pour voir ce qui se fait. Au Québec, l'ACFAS, je vous rappelle, depuis 1933, de façon continue, chaque année, sans arrêt, fait un congrès annuel qui, aujourd'hui, accueille, à la fin du mois de mai, plus de 5000 personnes, ce qui donne lieu dans les journaux à des dizaines d'articles qui rappellent l'existence des travaux dans toutes les disciplines, y compris, dans ce cas-là, les sciences sociales et la sociologie. Tous ces travaux, que d'aucuns, spécialistes des généralités ou qui veulent ramener une discipline à la simple philosophie sociale, même généreuse, font l'erreur de décrier sous le nom d'émiettement ou d'hyperspécialisation, montrent que le regard sociologique peut et doit se porter sur l'ensemble des pratiques sociales et des mondes sociaux. Mouvements sociaux, éducation, classe sociale, identité, genre, économie et gestion, sciences et technologies, environnement, etc. Tous les recoins de la vie sociale peuvent, en principe, être intéressants et éclairés par un regard sociologique. La réalité incontournable des savoirs spécialisés, que ce soit en physique ou en histoire, spécialisation générée par la croissance démographique et la massification des sciences, doit nous rappeler aussi que les discours théoriques sur la discipline, favorisés par les discours de circonstance comme celui-ci, poussent trop souvent à construire une identité disciplinaire abstraite, alors que chaque spécialité tend à avoir une certaine autonomie au sein de la discipline, avec ses questionnements et ses méthodes propres. Si la discipline répond à des besoins d'enseignement au niveau de licence, la spécialité répond à ceux de la recherche spécialisée, l'épistémologie étant elle-même une spécialité, même si plusieurs improvisent sur le sujet, le plus souvent avec un manque de précision conceptuelle qui ne tient pas compte des travaux des philosophes des sciences sociales. Par exemple, confondre les modes des méthodes avec leur validité ou leurs usages réels et routinisés. Pourtant, assez élémentaire comme distinction pour quiconque a lu des travaux sérieux en philosophie des sciences sociales. Comme on a pu déjà le constater, je prendrai ici la physique pour modèle, non pas au plan épistémologique, bien sûr, car les humains ne sont pas des électrons, même libres, mais dans leur pratique sociale. Cette comparaison me paraît éclairante, car, c'est bien connu, la physique est considérée comme le surmoi de la plupart des disciplines, qu'on pense aux économistes. Et donc, cette comparaison est éclairante, car elle permet aussi, je crois, d'éviter de tirer des conclusions hâtives sur les sciences sociales à partir de données limitées sans faire de comparaison. Par exemple, des données bibliométriques sur la signification de la croissance de l'âge moyen des citations comme mesure de la non-cumulativité d'une science. Alors qu'une étude comparée avec les sciences de la nature montre que cette croissance est identique dans les sciences de la nature. On doit donc en conclure, si cet indicateur bibliométrique est bon, que les sciences de la nature ne sont pas cumulatives. Peu probable qu'on accepte la conclusion, donc il faut plutôt jeter l'indicateur à la poubelle. De même, malgré les grands discours sur les théories unifiées, les analyses les plus fines de philosophie de la physique, comme celle de Nancy Cartwright, par exemple, montrent que bien loin d'être unifiées, les diverses théories physiques couvrent en fait des domaines différents du réel et ne sont jamais toutes déduites d'une mythique et unique théorie fondamentale. En somme, même au plan des structures théoriques de la discipline, quand on se compare, on se console. Et il n'y a pas de raison de se plaindre de l'absence d'une théorie universelle de la société, idée qui se base implicitement sur l'idée fausse qu'il serait ainsi en science de la nature, modèle à imiter, comme si une telle théorie existait, ce qui n'est pas du tout le cas, nonobstant les discours de vulgarisation scientifique qui nous parlent de la grande théorie du tout et des scientifiques qui nous font croire qu'à partir des quarks, on déduit les atomes, on déduit les molécules, on déduit la lumière. Tout cela est faux. Laissons donc de côté le grattage de bobos épistémologiques qui n'en sont pas vraiment, et regardons plutôt les pratiques sociales des sociologues qui peuvent contribuer à donner l'impression qu'elles ne sont pas vraiment une science, ni cumulative, ni une vraie science. Car l'épistémologie, fut-elle celle de la sociologie, est de la philosophie et non de la sociologie. Tout comme l'histoire de la sociologie est de l'histoire, même quand la problématique est sociologique. L'objet est une chose, la méthode en est une autre. Comme le disait Gaston Bachelard, comme le disait Georges Canguilhem, erreur bien prévisible, l'objet de l'histoire de la science n'est pas l'objet de la science. Phrase classique de Canguilhem qu'il faut toujours répéter, l'objet de l'histoire des sciences n'est pas l'objet de la science, donc ça s'applique par transposition aux autres domaines. Venons-en donc aux pratiques rarement discutées par les analyses épistémologiques de la discipline. Parmi celles qui contribuent, à mon avis, à sous-estimer la cohésion de la discipline et la cumulativité de ses résultats, on trouve la manie de constamment renommer les concepts et les phénomènes. Or, il ne vient encore une fois à l'idée d'aucun physicien de renommer l'équation de Schrödinger ou l'effet photoélectrique pour donner l'impression de réinventer la physique et de ne devoir rien à personne. Par contre, le profane qui observe les sociologues constate souvent qu'ils semblent trouver très important de faire débuter beaucoup de leurs phrases par « ce que j'appelle X, Y ou Z ». Une enquête rapide sur Google Book en utilisant le N-gram Viewer qui nous donne la fréquence relative d'apparition des expressions dans des millions de livres, tant en français qu'en anglais, suggère d'ailleurs que cette manie s'est fortement accrue depuis la fin des années 70, surtout en anglais, mais aussi en français, car on observe une croissance soudaine et rapide de la locution « what I call » ou « ce que j'appelle » qui met en évidence le « je créateur », parce que le « what we call » est beaucoup moins important. « What I call », ça c'est... Il ne s'agit pas, bien sûr, de s'opposer par principe et absolument aux innovations linguistiques et conceptuelles. Par exemple, le développement de la sociologie des réseaux depuis les années 1970 a contribué à définir des concepts vraiment nouveaux et opérationnels, comme ceux de centralité ou d'intermédiarité. Pensons aussi à l'ethnométhodologie, même si dans ce cas, le fondateur a tout fait pour construire un langage incompréhensible et illisible, mais bien fait pour générer une littérature exégétique infinie. De telles innovations réelles sont tout de même rares, et la simple multiplication des objets, des labels a plus d'effet néfaste que bénéfique, car elle cache ainsi des savoirs accumulés derrière une multitude de vocables différents. On pourrait en dire autant des méthodes qu'elles présentent comme nouvelles et originales, et comme cette idée de combiner le qualitatif et le quantitatif. Devant la mise en marché des nouveaux mots, présentés comme des concepts originaux, il s'agit donc de s'assurer qu'ils décrivent vraiment un phénomène nouveau et surtout de vérifier que sa description ne peut se faire avec les catégories habituelles, les catégories usuelles des sociologues. Après tout, il y a des dictionnaires de sociologie qui peuvent encore servir. Une attention particulière devrait être aussi portée à l'abus des métaphores qui ne se développent pas toujours en véritables analogies systématiques. Par exemple, on peut parler aujourd'hui de fractal au lieu d'arborescence. Fractal, c'est une science mathématique, donc on change arborescence, qui est une banalité qu'on connaît depuis au moins le 17e siècle, pour fractal, qui est une théorie formelle, ça a l'air plus scientifique. Mais le fractal en sciences sociales n'est que métaphorique et dit une chose qu'on connaît, c'est-à-dire l'arborescence. Il y a toujours, bien sûr, des petits cyniques et des arrivistes pour faire croire à leurs innovations radicales, mais les sociologues pourraient développer un meilleur réflexe de résistance en allant derrière les mots, analyser le travail réel qu'ils font ou ne font pas. Si l'on doit constamment bien formuler une question et donc la conceptualiser adéquatement, cela n'entraîne pas nécessairement la création d'une théorie nouvelle ou d'un nouveau langage. En physique, encore une fois, conceptualiser la supraconductivité se fait sur les bases des théories physiques existantes et non pas en les remplaçant au nom d'un quelconque impératif d'innovation théorique. On reviendra sur les causes de cette importance de l'innovation. Il est souvent possible d'ailleurs de montrer, par une analyse serrée de la structure conceptuelle d'une théorie, qu'elle soit en sociologie ou en physique ou en chimie, qu'elle est en fait, par-delà son vocabulaire, équivalente à une autre dans son objet, dans sa référence. Car l'idée que deux théories portant sur le même objet, analysées sous les mêmes rapports, soient incompatibles et contradictoires, semble difficile à admettre au plan logique. Elles peuvent être complémentaires si elles portent sur des échelles ou des aspects différents du même objet, ce qui est autre chose. Je vais donner un exemple. Au début des années 1920, il y a eu une révolution en physique qui s'appelle la mécanique quantique. En 1926, Schrödinger arrive avec une équation, qu'on appelle l'équation de Schrödinger, et Heisenberg arrive avec des matrices. Tout physicien qui regardait les deux théories se disait, mais ces deux univers incommensurables, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qu'est-ce qu'on fait? Le réflexe a été de se dire, si ils portent sur le même objet, s'ils décrivent le même phénomène, elles doivent être quelque part, malgré les apparences, être équivalentes, spontanément et indépendamment. Wolfgang Pauli a démontré l'équivalence des deux théories et Schrödinger a fait la même chose de façon indépendante. Donc, leur réflexe n'était pas de se dire « ces deux théories contradictoires et il n'y a pas de souci », c'est de se dire « ouais, mais s'ils portent sur le même objet, peuvent-ils être contradictoires ?» Donc, en fait, une analyse conceptuelle logique et on dit « non, s'ils sont équivalentes, on peut le démontrer. On peut montrer les transformations, ça s'appelle la théorie des transformations de nos jours, de l'un à l'autre. On peut faire des choses similaires pour les sciences sociales. » La façon la plus simple, donc, de faire table rase du passé, je vais donner quelques exemples, pour montrer qu'on est innovant, consiste d'abord à renommer un concept emprunté sans vraiment modifier son contenu. C'est le cas, par exemple, parce qu'on utilise, là je prends des exemples en sociologie des sciences, donc c'est plus éloigné, la bienséance académique doit être respectée. Donc, lorsqu'on utilise la notion de champ scientifique, qui, par définition, lorsqu'on regarde la définition, comprend celle de lutte au sein du champ et qu'on la rebaptise champ agonistique ou encore arène épistémique, sous prétexte que ces expressions rendent plus explicite le caractère conflictuel du champ. On vient donc de dégriffer un concept, on peut se promener avec, sans jamais faire référence à ce qui est le concept original, qui est le même, déguisé sous un nouvel habillage. Ça ne rend pas le concept utile ou non, ça rend simplement l'idée que si on veut reprendre un concept, il y a un minimum d'honnêteté intellectuelle qui devrait ne pas être soumise au mode académique. On peut aussi parler de monde ou de sphère ou de configuration pour éviter de parler de champ ou vice-versa. On peut aussi donner l'impression de tout renouveler en remplaçant le mot « système » par « régime ». Comme si un régime n'avait pas, comme tout système, une structure et une logique propre qui font justement rouler le régime comme un système. Le système capitaliste est-il si différent du régime capitaliste? On peut en douter. Comme le note avec justesse le philosophe Pascal Engène, dans un texte récent paru sur le site des carnets Zilzel, je cite, « Ce n'est pas parce qu'on donne un nom à une chose que la chose en question a la propriété désignée par le nom. De même, là c'est moi qui parle, ce n'est pas parce que l'on change de nom que l'on dit nécessairement des choses différentes. Au lieu de renommer simplement, on peut aussi avoir plus d'ambition et lancer des entreprises académiques sous des appellations contrôlées. On peut dire, lancer par exemple l'idée d'une économie morale des sciences, ou mieux d'une ontologie historique des sciences, pour être en phase avec le dernier tournant qui, après le tournant linguistique, le tournant pratique, qui s'appelait en anglais le « practice term », qui en France est devenu le tournant pragmatique, on a même mal compris « practice » pragmatique, et maintenant le tournant, si vous l'avez raté, il est encore temps de le prendre, le tournant ontologique. Dans ce dernier cas, il vaudrait la peine de s'y attarder, car ce récent virage, outre qu'il mélange allègrement épistémologie et ontologie, deux catégories philosophiques pourtant orthogonales, il permet de passer en contrebande des entités invisibles, comme Dieu et autres apparitions, qui passent ainsi subrepticement de catégorie d'acteurs à catégorie d'analyse et même parfois en entité explicative. Dieu, et non plus la croyance en Dieu, devenant ainsi la cause de l'action. J'invente pas ces exemples-là. Une approche encore plus audacieuse est d'éliminer encore davantage de notions classiques en inventant de toutes pièces un dictionnaire complet qu'il faut d'abord apprendre par cœur avant de pouvoir l'utiliser pour renommer des pratiques longtemps observées et analysées sous un autre lexique ou en utilisant le langage ordinaire. D'ailleurs, Howard Becker a noté que le succès de son ouvrage classique « Outsiders » doit beaucoup au fait qu'il écrit en langage courant et ne comporte aucun jargon particulier. Il y a des concepts, mais il n'y a pas du jargon. En science, une telle réforme radicale du dictionnaire est rare, mais elle a existé à la fin du 18e siècle, lorsque la nouvelle nomenclature chimique de Lavoisier et de ses collaborateurs est venue réformer effectivement le dictionnaire pour simplifier les façons de nommer les produits chimiques aux noms souvent ésotériques, à cause bien sûr de leurs origines alchimiques. Mais depuis, les chimistes s'entendent pour ne pas réformer leur dictionnaire chaque 10 ans, se contentant plutôt d'y ajouter des notions lorsque nécessaire, on l'a vu dans le cas de la théorie des réseaux sociaux. Quelles sont les causes de ces pratiques? Cette course à l'innovation lexicale, confondue souvent avec l'innovation conceptuelle et théorique, a plusieurs causes. J'en propose de façon préliminaire un certain nombre. La première, évidente, relève de la compétition pour accroître sa visibilité sur le marché académique. Aux États-Unis, ça me semble assez évident, qui a clairement augmenté depuis la fin des années 1970, période au cours de laquelle on voit d'ailleurs s'accroître l'expression « ce que j'appelle », indice d'innovation lexicale. De façon parallèle, on assiste aussi à une inflation de « nouveaux » autoproclamés. On a eu bien sûr la nouvelle histoire, la nouvelle sociologie des sciences, la nouvelle, j'invente pas, là, ça existe, la nouvelle sociologie des intellectuels, par exemple. Je faisais d'ailleurs observer à un collègue sociologue des sciences qui présentait le domaine il y a seulement quelques années qu'il était un peu ridicule de parler de nouvelle sociologie des sciences pour décrire le constructivisme qui était plutôt ancien après 30 ans d'existence et 20 ans d'hégémonie dans cette spécialité. Mais cette idée qu'on fait du nouveau a un intérêt psychologique, j'imagine. Donc le réflexe de nommer, et surtout de renommer, me semble aussi lié à la survalorisation sociale de la théorie, sociale dans la discipline. De la théorie, toujours plus chic, je l'ai dit, que l'empirie. Elle-même, d'ailleurs, confondue avec la conceptualisation de l'objet d'étude. Sans se lancer ici dans une analyse épistémologique approfondie, disons seulement qu'une théorie bien formée en sciences sociales ou en sciences n'est pas un dictionnaire de 100 mots nouveaux, mais un ensemble limité et bien défini de concepts, 4-5 en général, quand on observe les théories actuelles, liés entre elles et permettant d'en déduire des prévisions, des explications. Le tout encastré dans la logique et le langage naturel. Le livre de Becker est écrit en bon anglais. Ainsi, qu'elle soit juste ou non, la théorie des révolutions scientifiques de Thomas Kuhn est bien formée. Les liens entre les concepts sont bien définis et, au-delà du sens technique des mots crise, anomalie, science normale, paradigme et révolution scientifique, le tout est écrit en anglais standard. Il en va de même du système normatif de la science chez Merton. En somme, une théorie est davantage qu'un simple langage descriptif universel qui ne fait que dire en jargon savant ce que l'on disait autrement avant. De ce point de vue, la notion, par exemple, toujours en promettant la sociologie des sciences, de « boundary work » en sociologie des sciences est boiteuse car non intégrée à un cadre conceptuel plus large qui lui donnerait tout son sens. Un concept étant toujours un interconcept, comme le disait Bachelard, c'est-à-dire qu'il prend sens en relation avec d'autres concepts. On sous-estime d'ailleurs, à mon avis, la capacité prédictive des théories de moyenne portée en sciences sociales. Par exemple, on comprend, à mon avis, quand on comprend les mécanismes spécifiques du champ universitaire qui met l'accent sur la recherche, on peut prédire, sans grand risque de se tromper, ce qui arrivera aux institutions qui décident de se prendre pour des universités. Je pense ici, dans mon cas, au Cégep au Québec. Pensons aussi au texte de Merton de 1951, qui dit déjà, sur la base de sa théorie de la science et sa théorie de la déviance, que une trop forte importance donnée à l'innovation ne peut que générer des fraudes et des phénomènes qui, effectivement, ont augmenté de façon évidente depuis les années 1990. Donc, cette manie est également liée, je crois, à une forme de substantialisme linguistique qui sévit chez trop de sociologues qui tendent à confondre les mots et les concepts. Or, si les concepts sont assurément formés de mots, tous les mots ne sont pas des concepts ou des catégories sociologiques, et des mots différents peuvent souvent référer au même concept. On devrait plutôt accepter le fait que d'autres sont passés avant nous et ont contribué à nommer des phénomènes fondamentaux, anomie, fétichisme, intérêt, habitus, etc. Comme le disait La Bruyère, qui, pour faire effet, exagérait un peu, je cite, « Tout est dit et l'on vient trop tard. Depuis plus de 7000 ans qu'il y a des hommes et qui pensent. Ajoutons de nos jours qu'en plus, il y a des femmes. » Enfin, dernier élément explicatif de la manie de sous-estimer la cumulativité en renommant les choses puis en disant « je ». Donc, un dernier élément explicatif relève, il me semble, des organismes subventionnaires qui orientent la recherche par des critères qu'ils imposent. Ayant siégé moi-même pendant 3 années à l'ERC, donc l'European Research Council, il est évident que les critères imposés génèrent des pseudo-innovations, car il est explicitement demandé aux candidats de dire en quoi ils innovent sur le plan théorique et sur le plan méthodologique. Or, des innovations méthodologiques ne se décrètent pas chaque année. Pensons à la méthodologie. Faisons des arbres. On dit, OK, en gros, il y a du quantitatif, il y a du qualitatif. Dans le quantitatif, je peux faire des statistiques, des régressions, des modélisations. Dans le qualitatif, je peux faire de l'ethnographie, je peux faire des entretiens. Et On continue un peu, mais on n'arrivera pas à 52 combinaisons. Et ils sont pas mal tous essayés à des degrés divers. Qu'est-ce qu'on observe dans les demandes de subvention de l'European Research Council? OK, on voit qu'effectivement, ces critères sont des pousses au crime. Ils forcent à faire passer des mots pour des concepts et à nommer des anciens sous prétexte de les revisiter. Je dois avouer que les fameuses méthodes mixtes dont j'ai entendu le nom pour la première fois dans un comité de European Research Council, et j'ai demandé aux collègues « What does that mean? » Et là, ils m'ont dit « It's a combination of quantitative and qualitative analysis. » Et donc, je leur ai dit « Mais je suis M. Jourdain. Je fais des méthodes mixtes depuis 30 ans, sans le savoir. » Et parmi les nombreuses demandes que j'ai évaluées, j'ai vu des nouvelles inventions. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais moi, je les ai découvertes dans les comités de European Research Council. Une qui est très intéressante, qui s'appelle « Fast Ethnographies ». Là, je dis aux gens au comité, je dis « C'est une blague ». Je dis « Non, non, non ». Et donc, en gros, c'est quoi? C'est 5-6 entrevues de 2-3 heures. Mais dire des entrevues, ça fait sociologie classique. On fait des « Fast Ethnographies ». Un autre terme que j'ai découvert là, c'est « Multi-site Ethnographies ». Dans une demande, c'est en gros une douzaine d'entrevues de 3 heures dans 5 villes dans 3 pays. Ça s'appelait de l'ethnographie. Alors qu'on est habitué au celui qui s'en va dans le bois 6 mois, qui vit avec les Indiens, puis il revient puis il écrit un gros livre pour montrer qu'il n'aime pas les voyages. T'sais. Donc, et je suis convaincu, l'autre chose aussi, ah oui, j'ai vu une innovation extraordinaire. Je ne me souviens pas si on lui a octroyé, moi j'ai tout fait pour qu'il ne l'ait pas, mais peut-être qu'il l'a eu malgré moi. Une innovation extraordinaire qui consistait à tout filmer les acteurs, au lieu de simplement les observer. Donc, j'imagine que ça va donner un film au lieu d'un article ou d'un ouvrage. Et donc, je vous le jure, on mettait des casques à tous les acteurs qui, donc, filmaient tout. C'était une innovation méthodologique révolutionnaire. Mais c'est un pouce au crime parce que c'est écrit « Quelles sont les innovations méthodologiques ?» et les innovations théoriques. Et comme on mélange les mots et les concepts, une innovation théorique, on change le mot, on leur présente, on dit « J'ai une innovation, je suis le premier à avoir appelé ça « arène épistémique ». Et là, on explique en détail que ce n'est pas la même chose. Juste les naïfs ici là, qui pensent que c'est la même chose. Donc, je suis d'ailleurs convaincu que tous les spécialistes ici des différents domaines pourraient multiplier les exemples, chacun dans leur domaine. Notons aussi que les organismes subventionnaires contribuent, mais je crois que les comités de rédaction de revues contribuent avec leurs évaluateurs aussi à la tendance à imposer une certaine idée de l'innovation théorique en disant dans les textes que « Ah oui, ça, c'est pas assez théorique » ou « Qu'est-ce que ça contribue à la théorie ?» comme si on savait c'est quoi la théorie et qu'est-ce que ça veut dire contribuer à la théorie au lieu de dire « Est-ce que j'ai contribué à rendre raison d'un phénomène sociologique, quel qu'il soit ?» Est-ce que je rends raison du phénomène et si oui, c'est original ou ça a été publié avant par quelqu'un d'autre, donc va lire le texte qui a été publié, mais ça devrait être ça la norme. Est-ce qu'on a expliqué, rendu compte, interprété un phénomène nouveau qui nous éclaire? Ce qui nous amène à la dernière section de mon exposé sur quelque chose de plus hypothétique mais qui m'apparaît important sur la question de la pertinence. Parce que je pense qu'effectivement, si les questions de nature épistémologique sont abordées de façon récurrente, on le voit d'ailleurs dans le thème du Congrès, et que les pratiques que je viens de décrire, me semble, sont moins, comme prise de conscience qu'au fond, la question de la cumulativité ne se pose pas juste en termes épistémologiques, elle se pose en termes de pratiques sociologiques et de pratiques linguistiques. La question de la pertinence est encore plus rarement analysée. Et donc, je vais en aborder un aspect. Et c'est un aspect particulier de la pertinence pour lequel ma réflexion est encore embryonnaire et qui a trait aux conséquences éthiques de certaines analyses sociologiques. Étant personnellement conséquentialiste sur le plan éthique, je ne m'objecte pas a priori aux discours radicaux qui, par un réflexe de radicalisation encore typique des sciences sociales, annoncent, par exemple, que l'identité multiple est évanescente qu'il serait même devenu impossible de distinguer l'humain du non-humain. S'il est évident qu'une telle distinction peut être problématique dans le cas des tueurs en série ou de Hitler, On peut toutefois se demander si quelqu'un a vraiment de la difficulté à distinguer Stephen Hawking de sa chaise roulante. Or, j'ai la nette impression que les énoncés les plus radicaux et chics sur la nature de l'action humaine sont incompatibles avec un sens commun éthique minimal de respect d'autrui et de la responsabilité des gestes que chacun pose et dont il doit vivre avec les conséquences. Prenons l'exemple de quelqu'un qui s'oppose à la notion d'explication, puisque vous avez deviné que, dans ma vision des choses, rendre raison, c'est un terme beaucoup plus approprié qu'expliquer. Pourquoi? Parce qu'expliquer, ça donne toute la littérature à la bibliothèque de « understanding and explanation », tout le débat, est-ce qu'on explique ou on comprend? Si on dit « rendre raison », on a subsumé les deux sous une question que tout le monde comprend. « Rendre raison », si c'est des électrons, ce n'est pas une compréhension, c'est une explication. Si c'est des êtres humains, Max Weber nous l'a dit, c'est des raisons. Pas besoin de s'énerver jusqu'à ça. Donc, si quelqu'un écrit, et on doit prendre comme point de départ que quelqu'un qui écrit ce que je vais citer est sérieux. Donc, il faut le prendre au sérieux. Donc, si quelqu'un qui s'oppose à la notion d'explication écrit, je cite, que la croyance aux causes et aux effets est toujours, d'une certaine manière, l'admiration pour une chaîne de commandes ou la haine d'une foule à la recherche de quelqu'un à lapider. Fin de la citation. On pourrait aborder la question de la causalité sur un plan philosophique, mais il me paraît encore plus utile de se placer sur un plan éthique et de répondre qu'au contraire, la recherche des causes est plutôt la saine expression d'une éthique sociale de responsabilité, de justice et d'équité. De même, le fait de noter que le principe de non-contradiction ne peut pas être démontré logiquement n'en fait pas un principe arbitraire. Comme l'ont souvent suggéré les sociologues constructivistes Barry Bonds et David Bloor. En fait, comme l'écrivait le logicien qui s'y connaît en principe de contradiction, le logicien polonais Łukasiewicz, je cite, « Le principe de contradiction n'a sans doute pas de valeur logique, mais il possède une valeur pratico-éthique qui n'en est que plus significative. Le principe de contradiction, continue-t-il, est la seule arme contre l'erreur et le mensonge. » Fin de la citation. Donc, les logiciens savent depuis toujours que le principe de non-contradiction ne peut pas être démontré. Ce n'est pas parce qu'il est indémontrable qu'il est arbitraire qu'on peut s'en débarrasser. C'est une vision fondationaliste qui n'est même pas celle des logiciens, mais qui a l'air radicale, parce qu'on peut dire qu'on peut se débarrasser du principe de contradiction. Au lieu de se dire, si je m'en débarrasse, qu'est-ce qui se passe? Łukasiewicz a compris. C'est l'ouverture à l'erreur et au mensonge. Cette prise de conscience du contenu éthique de certaines prises de position, pas toujours analysées sérieusement, va au-delà du principe de non-contradiction performative, qui n'est plus le principe de contradiction logique, mais le principe de non-contradiction performative au sens d'appel, qui implique qu'on ne peut nier un état de choses quand la possibilité même de le nier le présuppose, en fait, soit logiquement, soit socialement. Ainsi, celui qui ne croit pas au principe de non-contradiction s'exclut lui-même de tout univers de discours rationnel. C'est un choix qui peut être fait, mais qui s'exclut de tout discours rationnel. Donc, le critère éthique dont j'ai l'intuition diffère du principe de non-contradiction performative et touche aux conséquences implicites de certaines prises de position qui semblent intéressantes en surface, mais deviennent difficilement tenables si on prend en compte le respect dû aux personnes. Pourtant, cette dimension éthique de la conceptualisation sociologique me semble rendre plusieurs sociologues mal à l'aise, comme je l'ai expérimenté. J'ai fait une petite expérience ethnographique, un montage expérimental, ou une expérience naturelle, disent les économistes. Alors que mes collègues sociologues des sciences débattaient il y a quelques années, dans les années 90, dans une grande salle comme celle-là, il y avait une table ronde qui débattait de la validité du soi-disant principe de symétrie généralisée qui prétend mettre sur le même pied humain et non-humain et que l'un des orateurs cassait un crayon en deux pour montrer que le crayon ne réagit pas, le crayon ne se révolte pas. J'ai fait remarquer pendant la période de questions, j'ai levé la main à la première des questions parce que j'avais préparé mon speech, qui est un vraiment une stratégie pour les déstabiliser. Et je leur ai dit que, oui, bien sûr, le crayon ne réagit pas, mais... Et là, ils sont devenus totalement silencieux et ont décidé de passer à la question suivante, quand j'ai dit que la raison fondamentale de rejeter cette soi-disant symétrie était en fait éthique. Ce n'est pas les coquilles Saint-Jacques ou les oiseaux qui enrôlent les humains et à leur défense, mais bien certains humains qui, au nom de certains principes que l'on peut partager ou non, avaient décidé de créer des associations de défense des oiseaux, des arbres ou je ne sais quoi encore. Curieusement, après ce silence assez bruyant, après la séance, quelqu'un est venu me voir, lorsque je sortais, est venu me dire à l'oreille, comme si elle me confiait un secret, qu'elle était totalement d'accord avec mon intervention. Elle devait se dire que j'avais été déçu par la réaction des participants à la table ronde, qui ne semblaient pas comprendre ce dont je leur parlais. Mais elle me disait, oui, tu as raison. Mais le fait qu'elle me dise à l'oreille, tout bas, on sentait un malaise. Un autre exemple montre que le paradigme postmoderne du brouillage des frontières, qui croit poser des questions profondes sur l'existence des identités, tombe parfois sans le savoir dans une négation pure et simple de l'humanité des personnes étudiées. Ainsi, dans un ouvrage consacré au physicien Stephen Hawking, donc vous voyez pourquoi il était présent avant, on peut lire, et je cite, que l'un des principaux thèmes du livre est de questionner la possibilité de savoir qui il est et où il se trouve. Jouant, comme c'est l'une des caractéristiques fondamentales du style postmoderne, sur les oppositions, en les combinant pour créer autant d'oxymores, on apprend ici que les catégories pour parler d'une personne, d'un corps, d'un esprit, d'une machine, d'un texte, d'un discours se brouillent. Et, affirmation stupéfiante, en la présence de l'auteur, elle conclut que Hawking devient introuvable. Je cite, on apprend même qu'Hawking, je cite, ne peut pas penser sans l'ordinateur auquel il est connecté. Le monde est encore plus étrange, nous dit l'auteur, le même auteur, car on ne sait plus vraiment ce qui sépare Hawking de ses simulacres, y compris sa statue. Jean-François Lyotard nous avait annoncé que la guerre du Golfe n'a pas eu lieu. Et on apprend maintenant que Hawking n'est pas là où les naïfs le voient, c'est-à-dire enfoncé dans son fauteuil, mais bien partout et nulle part à la fois. Ça, c'est un livre sérieux, dans une grande maison d'édition Chicago Press, pour ne pas la nommer. Tout ce discours peut donner l'impression que des questions fondamentales sont ainsi soulevées. Mais il est stupéfiant qu'à aucun moment l'auteur n'a pensé simplement à poser la question à Hawking. « Monsieur Hawking, où êtes-vous? » Deuxième question, « Monsieur Hawking, pensez-vous quand votre ordinateur est éteint? » On peut parier, et je suis prêt à parier beaucoup, tout mon salaire. On peut parier qu'il aurait répondu à la première, bien sûr que oui. Et à la deuxième, je suis effectivement dans ma chaise roulante. Comme le fit d'ailleurs Jean-Dominique Bauby, qui souffrait du Lock-in syndrome après avoir subi un accident cérébrovasculaire, situation à peu près équivalente à celle de Hawking aujourd'hui, et qui le rend incapable de communiquer, mais qui a réussi à écrire son histoire en la dictant lettre, par un code de clignotement de son œil, de sa paupière gauche, qui était la seule partie de son corps encore mobile. Il termine son livre, intitulé « Le scaphandre et le papillon », devenu d'ailleurs depuis un film avec l'actrice québécoise Marie-Josée Croze, en disant, je cite le livre, c'est la fin du livre, « J'ai bel et bien débuté une nouvelle vie, et c'est là, entre ce lit, ce fauteuil, ces couloirs, qu'elle se passe, et nulle part ailleurs. » Hawking aurait pu répondre la même chose si on lui avait demandé, au lieu de répondre à sa place, car il n'est pas évaporé dans un acteur réseau, notion purement métaphorique qui a la fâcheuse conséquence éthique de nier l'existence bien réelle d'un individu que personne de sensé ne confond avec sa statue de bronze ou avec le son émis par son ordinateur. En conclusion, la sociologie est-elle une discipline contre nature? Évidemment, oui. Et d'abord, pour la raison plus anthropologique fondamentale, que l'être humain constitue le seul être contre nature, qui est le produit de la nature et qui a construit un discours réflexif sur ses origines sociales et biologiques. De ce point de vue, la sociologie n'est qu'une discipline de plus dans la panoplie des théories développées par les humains pour expliquer le monde environnant dont ils font partie. Malgré les difficultés internes et externes qui confrontent la sociologie, il n'est pas utopique de penser que le travail sérieux et méthodique menant des conclusions fondées sur des données probantes peut être promu en lieu et place des grands discours théoriques. Car dans les faits, malgré la plus grande visibilité des discours théoriques surévalués, le gros de l'activité quotidienne des sociologues consiste justement à étudier les pratiques sociales précises et de tenter d'en rendre compte, d'en rendre raison avec les concepts les plus adéquats à la situation. Comme le disait le sociologue Fernand Dumont dans son ouvrage, à mon avis trop méconnu, « L'anthropologie en l'absence de l'homme », mais ce qu'il appelle « anthropologie », c'est les sciences sociales. La sociologie est pertinente, je cite, « pour nous faire mieux comprendre notre emplacement dans le monde, nous permettre de poursuivre notre destin avec nos interrogations plus nuancées, en amplifiant la conscience que nous avons de nous-mêmes. Dans le monde actuel, dont la complexité et la diversité sont plus grandes que jamais, le travail des sociologues est irremplaçable et il faut souhaiter longue vie à l'Association française de sociologie et à ses collègues, lieu unique d'échange et de débat pour accroître nos connaissances sur la vie en société, tout comme les biologistes travaillent pour leur part à mieux comprendre le fonctionnement du corps humain qui perçoit le monde extérieur, et tout comme les physiciens s'attachent pour leur part à comprendre ce monde perçu par ce corps. Merci. Briser la glace. Fait chaud.
Qui souhaite lancer?
Bon, il y a quelqu'un là. Voilà.
Alors, merci beaucoup à M. Gintra. Je suis Daniel Berthaud, je suis un des fondateurs de l'association en 2002, et d'ailleurs un ami du Québec. Et je suis aussi de formation scientifique au départ, et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié votre speech. La plupart des gens ici sont en formation ou sociologique ou quelquefois philosophique, mais assez peu de formation scientifique. Et c'est important, je crois, qu'on ait ce mix. Je n'ai pas vraiment de questions. Je voulais juste briser la glace, faire ouvrir la face. Comment briser la glace, comme au Québec, pour que d'autres passent. Je voulais simplement marquer une chose et vous dire que les applaudissements que j'ai entendus, moi j'ai fait tous les congrès de la FF, bien entendu, les applaudissements que j'ai entendus étaient plus forts, plus vigoureux, plus longs.
L'audimat.
Je suis content que Thorel n'ait pas été là pour les enfants parce qu'il aurait été très jaloux. Voilà, merci.
Qui?
Je
servi de l'intervention.
On peut en discuter autour d'un verre aussi.
Merci pour votre conférence. Il y a deux congrès, Andrew Abbott, qui avait fait la conférence inaugurale à Grenoble. S'était prononcé pour, un peu comme vous l'avez dit, qu'il était possible d'avoir une dualité dans les domaines séparés de la sociologie, par spécialité, par champ. Il avait cité l'éducation notamment, mais qu'en revanche, au niveau plus général, au niveau théorie générale de la société, là, il ne voyait pas comment on pouvait passer à la connectivité. Alors, quand même, si on prend ce qui s'est passé, l'interprétation de ce qui s'est fait dans les banlieues en 2005 ici, il y a quand même eu pas mal d'interprétations divergentes, très divergentes, par différents sociologues. Alors, au-delà des pratiques que vous avez bien décrites, faire école, enfin, etc., se faire remarquer, donc, ça, qui sont vraies, il y a quand même, au niveau des paradigmes, hein, je ne sais pas si je peux oser prononcer ce mot devant vous,
bien sûr.
Au niveau des paradigmes, des différences assez dures, mais qui sont probablement mises au départ pour les raisons que vous avez dites, de faire école, j'oublie la tradition, je fais comme ci, etc. Donc est-ce que sur cette question vraiment de la controverse paradigmatique au fond, vous avez des positions aussi?
Oui, je pense qu'on m'entend bien si je parle fort. C'est bon. D'ailleurs, je ne veux surtout pas donner l'impression que je suis contre l'idée de paradigme. Au contraire, la théorie de Kuhn, j'ai bien donné exemple, c'est une théorie bien construite, qui a une efficacité certaine, même si elle peut poser des problèmes avec lesquels là, on peut être en désaccord. Ma conviction, parce que je connais plus souvent des exemples en histoire des sciences, mais c'est que même dans ce cas-là, quand on dit parfois qu'il y a des différences de paradigme, okay, on utilise le mot, mais rarement je vois les études qui, au niveau micro, disent « OK, donne-moi les textes ». Ceux qui disent qu'ils sont en désaccord sur quoi? Et est-ce que c'est un désaccord ou c'est une reformulation? Et quand je vois les débats, c'est pour ça que je dis souvent qu'à mon avis, 90%, et je suis généreux, mais 90% de ce qu'on appelle des débats en sciences sociales, c'est des faux débats. 90%. On les regarde, mais c'est quoi le débat? Il n'y a pas un véritable désaccord. Et donc, souvent, on est capable de trouver l'équivalent. Par exemple, bon, je ne veux pas donner d'exemple en sciences sociales, mais... je suis frappé, par exemple, quand les historiens disent « Ah oui, vous savez, en histoire, on réécrit toujours l'histoire. » Darwin, il y a 50 biographies de Darwin. Je dis « OK, il y a 50 biographies de Darwin. » Mais j'ai dit « On fait un exercice. On prend celles qui sont parues au cours des 5 dernières années, il y en a 5 ou 8. On les met l'une à côté de l'autre et vous m'encerclez qu'est-ce qui est de différent. » Et on s'aperçoit que dans le livre, parce que bon, on sait quand est-ce qu'il est mort, il n'a pas changé. On sait quand est-ce qu'il a publié. Et là, on s'aperçoit qu'on est... au niveau interprétatif, sur des sensibilités assez marginales et non pas radicales. Donc, c'est, toutes ces biographies-là sont en gros équivalentes. Une est plus culturelle, parce qu'effectivement, ils vont s'intéresser au contexte culturel, la religion Darwin, mais c'est pas parce qu'on s'intéresse... Et donc là, on a des cas, non pas de désaccord, mais de choses... Donc oui, il y a des accords, mais mon hypothèse, mais là, il faut le faire cas par cas. Il faut dire, OK, je prends le corpus de la controverse sur X. D'ailleurs, on a un livre, justement, où on a travaillé ça un peu, qu'on a fait paraître aux éditions CNRS en 2014, que j'ai dirigé, qui s'appelle « Controverses, accords et désaccords en sciences sociales », avec 8 études de cas pour dire, quand on a une vraie controverse, les gens disent « Ah, j'ai pas, on m'a mal compris, c'est pas ce que j'ai dit ». Qu'est-ce que ça veut dire dans le texte? Et on s'aperçoit que très souvent, les gens ont accepté, mais le problème, c'est qu'on sait que les concepts en sciences sociales sont des objets semi-rigides, au sens de Kripke. Et donc, ça veut dire quoi, semi-rigide, en termes sociologiques? Ça veut dire qu'au fond, quand tu perds la face, c'est pas juste la théorie qui vient de tomber, c'est l'individu. C'est très difficile pour un individu de dire « Oh, je me suis trompé ». Donc, souvent, il va dire « Oui, je suis d'accord, mais c'est un détail ». Donc, il y a toutes les formules rhétoriques assez classiques. Tout ça pour dire que je connais pas le cas particulier parce que je l'ai pas étudié, mais mon hypothèse de travail, c'est de dire « Si on réussit à cerner le véritable désaccord, on pourra avancer » sur les types de causes, parce que souvent, ils vont être à des échelles différentes. Quand je disais tantôt, au niveau individu, interactionniste, on ne voit pas les mêmes choses qu'à des niveaux macro. Il y a plein de variables compliquées. On n'est pas en physique. Ça, j'ai dit, l'épistémologie de la physique, on n'en a rien à faire. Mais la méthodologie générale de dire, écoutez, on va essayer de converger. Et mon hypothèse, quand je lis toutes ces études-là, la convergence est beaucoup, beaucoup plus grande. Mais comme on part, ça, c'est une des formes que je n'ai pas explicitées du tout, parce que je ne l'ai pas mis. Il y a une autre forme rhétorique, c'est qu'on construit l'ennemi avec un simplisme total Et la réponse à ça que j'ai toujours les étudiants, c'est de dire, OK, quand vous entendez, les sociologues pensent que, OK, tu lèves la main, dis, monsieur, nommez-moi-en un, qui disent les âneries que vous dites que les sociologues disent. Et quand on fait ça, on voit bien qu'ils n'en ont pas. Ils ne pourront pas nommer Durkheim, ils ne pourront pas nommer personne. Parce qu'ils sont, ils ont une vision, ils disent, hey, le sociologue explique par le social. Ah bon? Tu veux expliquer par quoi? Par la génétique? Ça s'appelle la biologie, ça ne s'appelle pas la sociologie. Donc, je pense que les désaccords sont surexprimés et que derrière, même dans des phénomènes complexes, il y a une convergence. Pas une réponse finale, dans plusieurs cas, oui, mais dans le cas que vous discutez, c'est rendu plus complexe par un autre phénomène qu'on n'a pas discuté, c'est ce que j'appelle les objets chauds et les objets froids. C'est, dans le débat, essayons pas de passer un dialogue, c'est impossible. Les gens vont tout de suite vous situer comme acteur. Puis nous, comme je l'ai dit, la différence avec les électrons, c'est que les électrons ne répondent pas. On les met dans un champ magnétique, on dit où ils vont, puis ils disent pas non, je suis pas d'accord. Nous, ils disent, ils sont pas d'accord. Fait que là, il faut en tenir compte. C'est quand même, c'est vrai qu'il faut en tenir compte. Mais ça veut pas dire qu'en tenir compte, c'est dire, OK, mais d'abord, je vais répéter ce que tu dis. On n'est pas des répétiteurs de discours d'acteurs. Et donc, oui, il y a une convergence plus grande que ce qu'on dit, qui permet quoi? Par une analyse conceptuelle précise, de dire, OK, ici, on a un vrai désaccord. Nos causes ou raisons sont incommensurables. Et l'incommensurabilité existe même en sciences dures. L'âge de la Terre, pendant 50 ans, c'est deux univers parallèles, incompréhensibles. C'est empirique, c'est vrai. Et ensuite, ça change. Donc, je reste optimiste, autrement dit, à une condition, qu'on ne fasse pas des discours mous. Et je ne donnerai pas d'exemple, mais j'ai écouté justement une parce que je voulais me préparer en disant, c'est quoi ça, les conférences d'association française de sociologie. Donc, je suis allé écouter les discours précédents. Et j'étais assez surpris, parfois, d'entendre des discours de très généraux, qui pouvait conclure ce qu'il concluait parce que les catégories étaient très vagues et non pas précises. D'où l'exemple que j'ai donné sur certaines analyses bibliométriques, qui sont juste fausses, mais qui servent à des conclusions radicales de non-cumulativité, fondées sur un mauvais indicateur. Donc, si on précise, on peut aller plus loin. Autrement dit, conclusion, rendre raison, c'est un travail d'argumentation et de contre-argumentation, et s'il est fait honnêtement, il va arriver soit à une impasse, parce qu'on n'a pas de raison. Par exemple, pendant 50 ans, on ne sait pas l'âge de la Terre. Il n'y a rien à faire. Même si Darwin dit ses 300 millions d'années, il dit ça au pif, parce que lui, il a besoin de ça pour son évolution. Les physiciens disent, nous, on ne comprend pas. Ça va prendre la radioactivité pour dire, on a un timer de l'âge de la Terre, et c'est au 20e siècle qu'on a de l'âge de la Terre. Donc, on avance, et je suis convaincu que c'est vrai aussi pour les sciences sociales. Lorsqu'on regarde dans le détail, non pas dans les grands discours, mais dans le détail, je suis sûr qu'on a plus de connaissances aujourd'hui sur certains phénomènes, mais on a beaucoup moins sur d'autres parce qu'on ne les étudie plus. On n'étudie plus le théologico-politique et on ne sait pas que ça existe et que ça peut influencer des discours sur, par exemple, la place de la religion dans la politique. Il faut revenir à certains travaux-là qui vont nous éclairer. C'est ce que les historiens font, qui travaillent ces religions au 17e siècle et qui peuvent être utiles pour aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une vraie réponse, mais ça permet de compléter des éléments que j'ai donnés.
Quel genre de critères? Okay. Évidemment, la question de que les objets ne sont pas la même chose que les humains, et que finalement, si nous, on veut produire pas seulement dans les conditions d'exception, et considérer ou constituer, enfin, quelque part, décréter que les humains ne seraient plus les humains, ben, aussi pourquoi on veut arriver à cette espèce de dérive. Voilà, c'est un peu long. Mais...
Oui, si on prend l'exemple de l'European Research Council, là, on a une force qui est probablement actuellement la force la plus prégnante, parce que j'en ai vu des dizaines de ces demandes-là. Ils sont tous formatés de la même façon. Et donc, les gens qui font... Et par contre, comme je disais, il ne faut pas sous-estimer les revues d'évaluation par les pairs. Je siège sur le conseil de la Revue française de sociologie, en même temps que je siège sur le conseil de les actes de la recherche en sciences sociales, deux revues assez différentes. Et on peut voir comment les gens approchent la théorie. Donc là, il y a vraiment des choix sociologiques et qui définissent des certaines approches. Mais ce sont des choix, ce n'est pas dans la nature des choses. Et on le voit très bien, c'est une construction. On pourrait prendre les économistes qui sont mes favoris, parce qu'eux, ils croient qu'il y a des lois universelles, et donc ils ont transformé l'économie en loi universelle. C'est-à-dire, comme en physique, on fait le vide, et dans le vide, les objets tombent à la même accélération. Fait que là, tu fais le vide dans la société, puis tu as des équations qui marchent très bien. Sauf qu'il n'y a personne qui obéit à ces... Donc, c'est sûr que si on remet de l'atmosphère et du monde, bien, ça ne marche plus. Donc, c'est une science qui est fondée sur un peu une absurdité. Mais il va de soi que ce n'est pas une question de cumulativité pour les sciences sociales, parce que dans la pratique, si on laisse tomber les discours et on regarde ce qu'on a accumulé, on a plein de connaissances en sociologie de l'éducation. Maintenant, pourquoi qu'on dit que ce n'est pas... cumulatif, c'est que là, on fait une erreur que j'ai mentionnée rapidement, d'ailleurs, dans mon texte. C'est quand on dit ça, qu'est-ce qu'on présuppose? Qu'est-ce qu'on veut dire qu'au-delà des îles, il n'y a pas de cumulativité? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aurait un tout en haut qui s'appelait la théorie auquel toutes les îles seraient soumises. Or, j'ai bien dit qu'en physique, ça n'existe pas. Donc, tous les bons philosophes de la physique vont dire, non, l'électrodynamique de Maxwell, là, c'est pas vrai que c'est déduit, c'est faux. C'est mis dans la même affaire, puis on appelle ça une théorie unifiée. Mais c'est pas unifié, c'est quand j'ai unifié les horloges. Mais non, je les ai mis un à côté de l'autre. Okay? Donc, ça veut dire que notre surmoi épistémologique doit être changé pour comprendre la nature de la physique. Et d'ailleurs, depuis 15 ans, il y a plein de livres qui s'appellent « The Disunity of Science » qui s'appliquent à la physique. Ils disent « Et où l'unité de la science? » Comment ils prouvent? Comment ils disent ça? C'est très simple. Ils prennent la théorie et la décortiquent, pour ne pas dire la déconstruisent, parce qu'il y a décortique, et dit, bien, regarde, théoriquement, ça ne se déduit pas de ça. Donc, vous avez mis à la main, hop, un petit paramètre, et vous avez dit, ah, c'est unifié. Donc, les philosophes ont très bien montré ça. Une fois qu'on a montré que la physique est désunifiée, pourquoi la sociologie devrait être unifiée? Sauf, bien sûr, dans des catégories génériques. On a des catégories tellement génériques, c'est comme en physique, tu vas dire la matière. Ben oui, la matière. Matière-énergie, mais au-delà des généralités, qui sont les grandes catégories de pensée, espace-temps, causalité, les catégories efficientes pour rendre raison, dans toutes les disciplines, par exemple, la chimie organique a peu de choses à dire à la chimie inorganique. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'intéressent pas pourtant à ces mêmes atomes. Okay? Mais ils ont des spécificités, ils ont des techniques différentes. Donc, je ne comprends pas pourquoi nous, on devrait avoir cette soi-disant unification qu'on a empruntée dans un modèle imaginaire de la physique qui ne correspond pas à la réalité. Donc, il faut juste, comme je le dis, je le suggère, il faut abandonner ça et dire non, regardons ce qu'on fait, mais d'ailleurs, présentons-le sur le mode positif. Une autre variable que je n'ai pas mis, parce que je ne voulais pas parler trop longtemps, c'était une qui est classique dans l'écriture sociologique et que personnellement, je ne supporte pas et que je n'utilise jamais, c'est de commencer, justement, je disais tantôt, par dire, contrairement à ce qu'on a dit, puis là, on dit, ah oui, quelqu'un a dit ça, pas tard, à quel endroit? Et c'est tellement prégnant que dans le texte très intéressant que j'ai cité sur « The Meaning of Theory » de Habend, il part avec la même affaire. Il dit, les sociologues cherchent l'ontologie de la théorie. Ils cherchent un « natural kind » de la théorie. Il n'y en nomme aucun, parce qu'il n'y a personne. Tout le monde sait que « théorie », c'est un mot pour décrire des choses. Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas un électron, la théorie. Hein? C'est une construction conceptuelle. Mais il part de l'idée que les sociologues croient qu'il y a un natural kind de la théorie et ils cherchent l'essence de la théorie. Lui, il montre qu'il n'y en a pas parce qu'il y a 7 sens différents qui correspondent à des choses différentes, dont certaines sont au fond de la méthodologie. Les gens disent « I do theory », Et quand on regarde ce qu'ils font, on dit « OK, c'est ce que les autres appellent les métaux. Il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de problème. » Mais lui, il fait la même erreur de construire une chose qui n'existe pas. Fait que si on abandonne cette façon de dire aux autres, contrairement à ce que tout le monde a dit, fait que l'autre qui écoute, il dit « Ah bon, tout ce que tu as fait avant, c'est à faux, puis toi, tu arrives, tu nous apprends des choses, donc il n'y a pas de cumulativité. » Mais ce qu'il dit, lorsqu'on lit les textes, c'est faux. Les trois quarts de ce qu'il dit, c'est la même chose, et c'est bien que ce soit la même chose, parce qu'il dit « Écoute, si tu trouvais le contraire, il faudrait se gratter la tête. » Vous savez actuellement tout le débat autour d'Alice Goffman aux États-Unis, qui a fait une ethnographie, qui sème un débat absolument fondamental aux États-Unis, parce qu'il y a des juristes qui disent « Bien, au fond, ton ethnographie, c'est une complicité au meurtre, parce qu'elle suivait des bandits qui ont tué du monde. » OK? Et là, il y en a qui commencent à mettre en cause l'ethnographie. Calmons-nous, là. C'est pas l'ethnographie qui est en cause dans ça. C'est pas l'épistémologie de l'ethnographie. C'est un cas particulier qui a peut-être été maladroit, on ne sait pas, on n'a pas les notes. Les notes ont été détruites aussi, en plus, ce qui est un débat social de la discipline, parce que les physiciens ou les chimistes vont dire « Mais tu ne peux pas détruire tes notes de labo. » Or, en sociologie, on sait très bien que les Institutional Ethical Boards, donc les bureaux d'éthique institutionnels, peuvent te dire « Non, il faut que tu détruises ça après 3 ans, parce que c'est des idiots éthiques, c'est des curés habillés en civil, et ils veulent détruire les données sans s'apercevoir que la discipline va penser que si tu détruis les données, c'est parce que tu as quelque chose à cacher. » Donc, il y a des vraies questions sociologiques, mais à chaque fois, l'invariant, c'est le diable est dans les détails. À chaque fois, il faut dire « OK, qu'est-ce qu'on a dit là? Ça a quoi comme conséquence? » Détruire les données, c'est une bonne idée, mais supposons qu'on les détruit, qu'est-ce que ça donne? Ah, bien là, on va penser que j'ai voulu cacher des choses. Et là, on se dit, peut-être qu'on ne les détruira pas, finalement. Donc, il faut une pensée rationaliste, détaillée dans sa conséquence. Et quand on va rencontrer un os, un véritable désaccord, on va l'avoir. Mais pour l'instant, toutes les forces sociales institutionnalisées dans un certain nombre de revues et dans les organismes subventionnaires vont contre ça. Ils vont contre la cumulativité dans les sous-domaines. Et ils vont contre l'acceptation qu'on n'invente pas des méthodes. J'ai vu un cas, une petite anecdote, je vous compte, j'étais au European Research Council. Par hasard, moi, je suis expert de bibliométrie. C'est mon domaine depuis 30 ans. Je lis une demande qui dit « Je suis le premier à faire une analyse de réseaux bibliométriques de co-citation. » Évidemment, autour de la table, il y a des anthropologues, des politologues, des sociologues. Personne ne connaît ça. Je lève la main, je dis « Écoutez, mes collègues, ça tombe mal. » Je connais ça. Et par hasard, en plus, j'ai publié sur exactement cette question-là il y a 10 ans. Et dans ma naïveté, je ne croyais pas d'avoir été innovateur. Mais lui disait qu'il innovait. C'est un mensonge ou de l'ignorance. Mais ce n'est pas de sa faute parce que c'est le pouce au crime, il devait dire ça. Au lieu de dire, il y a une méthode standard, ça marche. Ça s'appelle un verre, tu vides l'eau dedans, puis tu bois, il n'y a pas de souci. On ne commence pas à dire ça, non, il faut boire. Ça, c'est une catastrophe. Et plus on va la décrier, plus les comités vont changer les critères. Moi, j'ai fait des pressions, bon, ça ne marche pas, le European Research Council, il faut être innovant. Et d'où les mots, si vous entendez partout, les gens disent qu'il faut être innovant, il faut être innovateur. Et on dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nier le passé, c'est ça que ça veut dire. Or, la physique innovante, elle est microscopique. Hein? Pourtant, tous les nouveaux gadgets, c'était de l'innovation, mais qui sont basés sur aucun véritable concept nouveau en physique depuis 1925. Il n'y a pas d'innovation très forte en physique depuis 75 ans. On peut le déplorer, mais ça n'empêche pas d'avancer. Donc, c'est un véritable problème compliqué auquel je n'ai pas de solution, mais la conviction, c'est de dire, OK, un problème compliqué, si on commence par le nommer et le répéter, on va avoir de l'effet. Par exemple, le livre sur l'évaluation de la recherche, où je répète constamment que les gens qui font des facteurs H et de la bibliométrie ne savent pas ce qu'ils font, ça commence à avoir de l'effet. Il y a des comités qui refusent maintenant d'utiliser les facteurs H. Il y a des comités qui vont refuser les indices bibliométriques. Mais c'est un travail collectif où sur tous les comités où vous êtes, vous devez dire non pas « Oui, ça manque de théorisation. Il faudrait peut-être qu'il fasse un cadre théorique. » Non, il faut une problématique. Ce n'est pas la même chose. La question, c'est quoi? L'objet, c'est quoi? La méthode, c'est quoi? C'est-tu quelque chose qu'on connaît? Oui, bon, on arrête. Tu trouves autre chose. Ou c'est quelque chose de nouveau. Il y a plein de phénomènes sociaux inconnus. Pourquoi se casser la tête à inventer des concepts? Ça, c'est mon cheval de bataille. Et si on gagne celui-là, soyons optimistes, c'est par les nouvelles générations à travers les colloques qu'on va s'habituer à dire « Viens pas nous dire que tu réinventes la roue. » Dernière anecdote, j'ai évalué un livre de Chicago Press il y a quelques années sur Einstein. Ça s'appelait The Einstein's Generation. Le livre est paru sous ce titre, longtemps. C'est fait. Et j'avais souligné que dans les 20 premières pages d'introduction, il y avait 25 fois le mot nouveau. 25 fois le mot nouveau. Donc, j'ai dit, premièrement, on enlève ça. Puis, deuxièmement, j'ai dit, dans tous les cas où il y a le mot nouveau, c'est faux. Parce que telle étude de telle année, telle autre étude a montré telle chose, telle autre... donc il n'y avait rien de nouveau. Mais le livre était intéressant, c'est une synthèse qui permettait de voir en deux couverts une synthèse des choses. Mais c'est toujours « new and the first to show that ». Non, la nouveauté, c'est qu'il montrait que si on visse une vis un peu plus fort, ça casse. C'est à nouveau, mais je ne pense pas qu'Einstein se cassait les oreilles avec savoir si la pression dans la vis est importante. Donc, cette manie, c'était pas, je pense, de sa faute, c'était structurel. Et si tu dis que tu n'es pas innovant, tu n'as pas de subvention ERC, c'est cuit.
Oui, Yves, je voudrais poursuivre ce débat. C'est tout à fait intéressant, on va ce que tu dis, et surtout des aspects de comparaison, par exemple physique et sociologie ou sciences sociales. Alors, il y a quand même un petit problème aujourd'hui, je voudrais en rediscuter. Cette injonction à l'innovation, elle est valable pour toutes les sciences. Il faut innover. Bon. Mais selon le principe de non-contradiction que je avance, comment se fait-il quand même que, a priori, semble-t-il, les physiciens, en tout cas, les plus largement différentes disciplines des sciences de la nature arrivent quand même à se mettre assez vite d'accord sur la cumulativité des résultats, alors que précisément les sciences sociales, c'est toujours très délicat puisque tu en as beaucoup parlé. Donc, je pense que ce critère-là n'est pas suffisant pour pouvoir faire la distinction. Et donc, comme tu as quand même beaucoup parlé, je vais laisser ce terme-là, du postmodernisme, finalement, en sciences sociales, certainement qu'il n'existe pas en physique, quoi, hein, du postmodernisme. Et donc, une question à partir de là, est-ce que aussi suscitant de rendre raison, je suis d'accord avec toi, hein, sur la manière d'envisager le problème, l'explication, la compréhension, etc., sur ce rendre raison, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui, justement, relie toutes les sciences dans ce rendre raison, et qui est la relation de causalité. Et donc, en sciences sociales, peut-être cette dissolution de la relation de causalité, quelque part ensuite, hein, et cette dilution de la relation de causalité qui n'existe pas quand même dans la relation de la classe de l'âge.
Ok. Peut-être la dernière. Il fait chaud. Ok, donc je vais répondre à cette dernière-là. Je vais montrer que c'est intéressant parce que l'effet du European Research Council et l'effet de l'innovation s'appliquent aux sciences de la nature. J'en ai un cas extraordinaire, c'est le Human Brain Project, qui a fait un gros scandale en Europe. Qui impliquait des millions d'euros, qui avait été présenté comme une innovation radicale. Parce que non seulement on veut l'innovation, on veut l'innovation radicale. Donc, l'innovation radicale, ça peut vouloir plein de choses. Ça peut dire 2 plus 2 égale 5. C'est radical. Mais c'est faux. 2 plus 2, ça fait 4. Okay? Mais lui, dont j'oublie le nom, il s'est dit, j'ai un projet radical. D'ici 10 ans, je vous numérise, je vous modélise tout le cerveau humain, y compris les pathways des ions de la vraie, non pas une phénoménologie du cerveau, mais vraiment tout le cerveau humain dans un ordinateur. Lui, c'est un bon vendeur de tapis. Il se promène dans les conseils de l'Union européenne. Il réussit à avoir des chercheurs. Il est tellement bon vendeur qu'il obtient le projet. Un an ou deux après, 800 chercheurs neurophysiologistes qui se disent « mais c'est absurde, c'est du délire collectif, on gaspille des millions ». Il envoie une pétition au Parlement européen. Il dit, écoutez, vous arrêtez ça. Il nous met dehors, parce que nous, on est des vrais physiologistes, on ne connaît pas les pathways, comment il va les modéliser. Ça a été une crise, il y a eu un rapport dont on a les résultats. Il y a un comité d'audit qui est venu là-dedans, qui a dit, écoutez, on est en plein délire. Et qui ont dit, effectivement, on refait la gouvernance du projet, qui a des millions, des centaines de chercheurs, sinon même des milliers, à travers plusieurs pays, puis qui est dirigé par lui et un trio. Et on dit, on refait la gouvernance. Ceux qui ont lancé la pétition ont dit, un instant, oui, vous avez réglé la gouvernance, mais vous n'avez pas réglé le vrai problème. Ils ont dit, quoi? On a fait le rapport, vous devrez être content. On dit, non, on veut un deuxième rapport sur comment a-t-il été possible que le programme européen donne à ce projet délirant tant de millions. Mais la réponse, c'est qu'on veut des innovations radicales. Et là, comment dire, oui, on est pour ça, des innovations radicales, mais ça ne se commande pas. Puis la connaissance qu'on a actuellement du cerveau peut nous dire, ça, ce n'est pas une innovation radicale, c'est du délire. Vous allez brûler des millions de dollars. Et moi, j'ai siégé aussi sur l'équivalent de ces projets-là qui s'appelle chez nous le Conseil de l'innovation, j'ai oublié le titre, j'ai un blanc de mémoire, la Fondation canadienne pour l'innovation. J'ai siégé sur ces comités-là. Et je leur ai dit au comité, parce que c'est des pairs interdisciplinaires, on a eu un projet délirant. Là, je leur ai dit, après, j'ai écouté comme sociologue, je vais vous faire une petite suggestion. Le projet délirant qu'on vient de voir est une émanation du programme. Parce que le programme s'appelle Fondation pour l'innovation et ça donne de l'argent à l'infrastructure, pas à la recherche, à l'infrastructure. Ça veut dire quoi? Tu dis, OK, j'ai pas d'argent pour la recherche, mais je vais en demander pour l'infrastructure. Quelle infrastructure qu'il me faut? Bien, je vais en inventer. Là, on dit, OK, il me faut 400 ordinateurs, puis il me faut 300 casques pour mettre sur la tête d'individus, que je vais leur plugger ça. Puis quand ils vont se promener dans la rue avec le casque sur la tête, on va pouvoir avoir des données du cerveau. J'ai dit, c'est de la connerie technologique, ça ne nous apprend rien de nouveau. Mais pourquoi il a demandé ça? Parce que votre projet dit infrastructure. Heureusement, on l'a scrappé. Un autre de gestion disait, on va construire à côté du département un café avec des caméras, puis on va pouvoir donc observer les comportements des gens dans les magasins quand ils achètent un café ou un donut, OK? Mais j'ai dit aux gens, mais j'ai dit, savez-vous qu'en sociologie, l'ethnométhodologie, l'ethnographie fait ça gratuitement en allant direct dans le café. Direct, coûte moins cher. Puis en plus, c'est un vrai café, tu as une situation normale. Mais on rit parce que c'est vrai. On dit, comment on est dans ce niveau de délire? Donc, les sciences de la nature, la psychologie, les sciences, et là, ça au fond, c'est la psychologie, la neurologie, l'informatique, génèrent un certain nombre. C'est moins pire, mais sauf qu'eux, ils se sont regroupés. Ils ont fait une pétition qui a obligé le Parlement à agir, à réformer l'affaire. Là, il faut suivre le débat, parce que c'est sorti dans Nature au mois de juin, au mois d'avril ou mai, et c'est un vrai débat. L'autre, qui est autre chose, c'est qu'effectivement, c'est nos pratiques sociales. Il y en a de la cumulativité. C'est nos pratiques sociales qui les rendent invisibles. Il y en a de la prédictivité. Moi, par exemple, je vais être bien franc, je peux me tromper, mais je suis convaincu, et je l'ai dit à toutes les organisations ministérielles, si vous prenez telle institution que je nommerai pas, vous la transformez en recherche, je vais vous dire ce qui va arriver. Je vais vous même dire en combien de temps. Parce qu'il y a une structure très précise qui se retrouve partout, il y a des thèses qu'on a faites sur ça, et vous allez avoir telle conséquence. Si vous voulez ça, pas de souci. Mais c'est pas ça que vous voulez. Vous n'avez pas l'argent pour le faire. Verrouiller cette connerie. Et c'est donc une prévision argumentée, pas une boule de cristal, parce qu'il y a des mécanismes. Et il y a des mécanismes qui sont assez génériques pour nous prévoir de dire « ils s'en vont dans le mur avec ça ». Donc, si on mettait ça de l'avant, au lieu de nos débats, qui sont 10 % de la sociologie, puis qu'on mettait 90 % de ce qu'on fait par des résultats, on ferait un chemin... pas pour imiter sciences de la nature, parce qu'on n'est pas des électrons. Je pense qu'il suffit de dire qu'on n'est pas des électrons, je pense que le reste, vous comprenez. Hein? Il y a une réflexivité, il y a de l'agir, de l'action. Si on dit aux acteurs de faire une chose, ils sont capables de le faire, puis de faire le contraire. On sait tout ça, c'est démontré par toutes les études de gestion, les mécanismes de feedback. On connaît ça. Est-ce qu'on les applique? Quand on disait tantôt, le président, avec tout le respect, qui dit on devrait avoir plus d'application des sciences sociales ou d'usage des sciences sociales par les élus, bien, il y en a plein. Par quoi? Mais par des think tanks, c'est des sciences sociales. Mais c'est des think tanks. Peut-être qu'on les aime pas, mais ce qu'ils font, c'est des sondages. Ils font de la psychologie sociale, ils font plein de sociologie, ces gens-là. Et ils les vendent au gouvernement à gros prix. Donc, il y en a plein de sciences sociales dans la réalité. Il y a plein de sciences sociales dans les médias. Il suffit d'ouvrir la télé. Hein? Après, on peut dire que ce n'est pas le bon qui est là. Là, on va être d'accord si c'est des gens qu'on considère qui ne sont pas représentatifs et surtout qui disent des conneries au nom des sciences sociales. Et là, c'est une lutte de pouvoir sur laquelle on peut agir. Je termine avec une anecdote pour vous faire rire un peu. Puis comme c'est un cas de physique, il n'y a pas de problème. Moi, bon, j'ai une émission de radio depuis une vingtaine d'années et parfois, je suis invité dans d'autres émissions pour parler de sociologie de la science. Un matin, un dimanche, on m'invite à la radio pour 9h30, il est arrivé vers 9h, donc j'écoute l'émission de radio en me rendant, et je m'aperçois qu'on est en train d'interviewer les frères Bogdanov, grand astrophysicien reconnu par on ne sait pas qui. J'écoute ça, et bon, par mon expertise, je décortique le discours, j'arrive là, puis je leur dis en privé, écoutez, là, vous vous êtes fait avoir par des fumistes qui vous ont parlé de physique, c'est des fumistes, ils sont devenus verts. Parce qu'est-ce que tu veux dire? Ils m'ont rappelé le lundi, le réalisateur dit « Explique-nous, j'explique en détail que c'est des fumistes, qui disent des phrases qui sont connues, par exemple, la stratégie est simple quand tu es un fumiste en science. Tu commences ton discours par plusieurs phrases vraies. L'âge de l'univers, c'est 14.7, les physiciens, tout ça est vrai. Et là, oups, tu balances une invention, mais qu'elle vient après 12 choses vraies. Et ils disent la phrase suivante, vous savez, nous, dans nos travaux qui ont eu beaucoup d'impact, le bon sens, la générosité normale va dire positif. Il n'a pas dit le mot, mais si je dis que mon travaux ont beaucoup d'impact, ça veut dire positif. Il dit non. Quand ils ont dit ça, la phrase est vraie, beaucoup d'impact. Mais négatif, c'est des fumistes. Ils se sont fait démolir, les articles ont été rétractés des revues. Point barre. C'est des. Il a dit en moins. Fait que là, est-ce qu'ils vont réinviter Bogdanov? J'espère que non. Mais il faut faire le temps de dire un peu. Là, je ne les exclus pas de la physique. Je décris que ces gens-là ont une rhétorique. Jean Charon a fait la même chose pendant 20 ans en venant au Québec, nous parler de soi-disant de physique. Il nous parlait des électrons qui pensent, les éons. Et les journalistes, les interviewant, en disant c'est un physicien du Conseil de la recherche nucléaire. Non, c'était un physicien, c'est rendu un fumiste. Donc, il faut savoir décortiquer les discours et essayer de convaincre par une argumentation rationnelle. Merci.